100% Aiglon, Thomas Debonneau.
100% Aiglon, le débrief, c'est parti. Toute la team est là. Maxime Baquet, salut.
Salut Thomas, bonjour à tous.
Patrice Alberganti et Madame Alberganti qui est là aussi ce soir. Bonsoir.
C'est le 1er avril.
Bonsoir à tous.
Et Victor Wittner, salut Victor.
Salut, je suis venu tout seul, désolé.
100% Aiglon, c'est parti. Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Alors je vais commencer par une info importante, ça vient de tomber. On parlait d'Aya Nakamura là pour faire le chant là pour l'ouverture des JO.
Ça s'appelle.
Non, c'est pas l'hymne. Elle devait ouvrir les JO avec des chansons d'Edith Piaf. Donc ça vient de tomber. Elle sera pas toute seule sur scène puisqu'elle va être en duo avec Michel Sardou. Michel Sardou et Aya Nakamura pour ouvrir les JO Paris 2024. Une réaction, messieurs?
C'est bien le poisson le 1er avril. Là.
C'est beau duo.
C'est un vrai beau duo inédit.
Ouais, je crois que Patou, il a une préférence entre les deux.
Sardou.
Oh, pap.
Bon, allez, ce canular n'aura donc pas marché. Tant pis, je le prépare depuis ce matin. Je suis extrêmement déçu.
Ouais.
Bon, comment ça va, les
gars? J'ai fait mieux. Il faut remettre un peu de sourire après ce triste week-end.
Non, mais quel enfer. Quel week-end en enfer. Défaite des Aiglons, 2-1 ce week-end contre Nantes. Rechute après l'éclaircie qu'on avait cru entrevoir du côté de Lens, Max.
Eh oui, patatras. Tout est retombé comme un soufflet. Il y a eu cette petite éclaircie à Lens. On se disait, ça y est, c'est reparti, les Aiglons se sont parlé, ce stage en Belgique qui avait fait le plus grand bien, cette victoire qui semblait avoir un peu effacé ce début d'année 2024 très compliqué, et puis il aura suffi de 90 minutes face à notre bête noire qui continue de nous martyriser malheureusement. Mais voilà, ces Nantais, ils ont fait un match très cohérent mais pas flamboyant, c'est simplement le gym, comme l'avait dit Patrice avant le match. Notre principal ennemi cet après-midi, c'est nous-mêmes. Et encore une fois, on n'a pas été au niveau, tout simplement. Une nouvelle fois mené, pour la 9e fois cette saison, pour 9 défaites. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai manque de caractère, il y a un vrai manque de personnalité dans cette équipe. Et on a même l'impression que ça va au-delà, que le mal est plus profond. On va avoir l'occasion d'en reparler dans cette émission. Mais ça y est, on a l'impression que l'état d'urgence est enfin déclaré dans cette très très sombre année 2024 pour l'instant.
Ah, une défaite collective pour le coup. On peut impliquer les joueurs, on peut impliquer également le staff, pas tout.
Ouais, moi déjà, première chose, c'est que j'ai été très très surpris de la composition d'équipe de notre ami Farioli. Et après, on l'avait dit à Lens, on était très content d'avoir ce résultat positif, mais on savait très bien que cette équipe était quand même en convalescence, et on avait dit que sur ce match-là, tous les ingrédients avaient été mis dans la marmite pour pouvoir faire un résultat positif à Lens, ce qui n'a pas été le cas hier. On a retrouvé encore nos problèmes avec ce manque d'intensité, ce manque d'abnégation, ce manque de caractère et d'état d'esprit. Et quand tu n'as pas ça, avec le peu de marge qu'a Farioli dans son équipe, parce qu'il ne peut toujours pas s'appuyer sur une animation offensive performante, tu t'aperçois que dès qu'on est moins bien dans le match, dès qu'on est moins bien dans les ingrédients essentiels, on est une équipe qui est prenable par n'importe quelle autre équipe de Ligue 1. Donc aujourd'hui, moi j'ai peur de la suite du championnat.
Ah, c'est ce qu'on vantait en début de saison, cet état d'esprit des Niçois, ce groupe qui faisait bloc, et ça faisait la force de l'équipe. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus à Victor.
Ouais, ce qui était terrible, c'est qu'on s'est dit avant le match, Nantes arrive en mission commando pour arracher le maintien, mais c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils nous ont battus à la loyale. En jouant au foot et tout, donc c'est ça qui nous inquiète le plus, c'est que vraiment c'est à la loyale qui nous ont battus sur le terrain. Il y a pas d'erreur d'arbitrage, y a rien, c'est nous.
Voilà, on n'a juste pas été au niveau, ça a été poussif. D'ailleurs, on voit les notes, il y a des notes qui sont données après chaque match. Je crois que la meilleure note, c'est 5 sur 10 pour Bulka. Ce qui est une note ridicule, et tous les joueurs sont à 3, 4 points. Enfin, voilà, c'est
vraiment
Patrice
l'a dit hier, c'est la pire première mi-temps qu'on a vue cette saison.
Le match
coach
de la saison, non,
l'a confirmé ensuite. Il y a eu une petite réaction en seconde période, un petit peu plus d'allant, un peu plus de pressing, mais la première mi-temps, elle est cataclysmique, et on n'a pas reconnu effectivement l'équipe qui à Lens s'était un peu réveillée. Donc quel effet cette trêve internationale? On avait peur que ça coupe un peu les pattes, mais ouais, c'est assez inquiétant. Ouais. C'est assez inquiétant pour cette fin de saison.
On parlait de cette réunion en Belgique qui avait fait du bien aux joueurs, qui avait ressoudé le groupe. c'est trop éphémère pour moi. Est-ce que c'était de la sorte de comédie de la part des joueurs en se disant, allez, ils ont essayé de se convaincre eux-mêmes que ça allait mieux, Pat, et puisque 15 jours après, ça va pas. Enfin, ça peut pas tout changer en 15 jours.
Non, je pense pas que c'était une comédie, pas du tout, parce que on a vu la réaction, elle était très positive et tout le monde était concerné. Donc forcément, il y a eu une prise de conscience sur ce match de Lens. Après, moi, ce que je trouve très, très, très problématique dans cette équipe, c'est qu'on n'a plus d'idées. On n'a plus du tout d'idées sur le terrain. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Farioli, aujourd'hui, il met un 11 en place. Et quelque part, c'est encore une fois, et on l'a répété les années précédentes, allez les gars, faites un bon match. Aujourd'hui, il n'y a plus de cohérence, déjà, dans l'animation défensive sur ce match-là. Il n'y a plus aucune cohérence. Il n'y a plus aucune cohérence au niveau de l'animation offensive, parce qu'on s'aperçoit que, j'en ai parlé hier, pendant le match, à la 39e minute, Terem Moffi avait touché 3 ballons. C'est en avant-centre. Mmh. Donc je veux dire, ça veut dire qu'il y a un tel problème offensif dans cette équipe que aujourd'hui, tant que le système défensif, que l'animation défensive fonctionnait très très bien, tout allait bien. On l'a vu par les matchs passés avant Lens, ça commençait à s'effriter et on commençait à être une équipe prenable. On arrive à Lens, on fait un match très cohérent dans la négation, dans l'envie, l'état d'esprit, dans l'intensité. On arrive à sortir un résultat et quand on retourne dans nos travers, on ne peut pas s'appuyer du tout sur notre attaque. Et c'est très compliqué de dire aujourd'hui, Nice est un prêt. Pour moi, aujourd'hui, Nice, avec ce qu'il a prouvé hier, n'est pas un prétendant à l'Europe.
Ah non, mais ça, c'est sûr que la Ligue des Champions, à mon avis, faut l'oublier.
Mais à l'Europe, même pas la Ligue des Champions, à l'Europe.
Ouais, carrément, ouais.
Moi, j'étais juste un peu plus sceptique sur la victoire à Lens. Alors, on est très content, on a vu évidemment de l'envie qu'on n'a pas vu hier, tout ça, mais j'en parlais hier, moi, j'ai eu peur de la victoire en trompe-l'œil parce qu'ils nous font deux cadeaux quand même, et au niveau deux cadeaux, et après, ça libère nous. Nous, ça nous libère. On sait qu'on a un problème pour attaquer. Moi, j'ai l'impression qu'on a été convalescent pendant longtemps. On gagne grâce à deux cadeaux. Et de suite, on est guéri. Et j'ai eu cette petite peur. Et j'ai eu cette petite crainte. Finalement, pour l'instant, c'est avéré. Enfin, c'est révélé. Et voilà. Moi, cette victoire de Lens, j'ai pas non plus sauté en disant c'est bon, on est guéri, quoi.
Tu disais 39e minute, Moffi seulement 3 ballons. Est-ce que le problème c'est les attaquants qui demandent pas assez ou pas assez bien les ballons, ou est-ce que c'est le problème c'est un petit peu plus en arrière au niveau du milieu où on leur donne pas les ballons? Parce que moi je constate depuis le début de la saison que le problème pour moi il est effectivement devant, mais il est aussi particulièrement au milieu, quoi. Si on leur distribue pas de ballons, ils peuvent pas avoir de ballons.
Thomas, je suis pas un expert du football de haut niveau, mais je te garantis qu'on a un vrai problème d'animation dans le jeu. Le jeu d'aujourd'hui de l'OGC Nice, il n'est basé que sur son système défensif. Et tu t'aperçois qu'on est très faible dans ce qu'on propose sur le terrain. Quelle est notre envie d'aller apporter le ballon devant le but? Comment apporter le ballon devant le but? Et comment faire briller nos attaquants? Aujourd'hui, si défensivement on prend pas de but, on peut gagner des matchs, mais si défensivement on prend des buts, on ne peut pas gagner des matchs. Ah, c'est impossible.
Ça c'est oui, est-ce que la défense aussi on n'a pas
t'as des clubs, t'as des équipes où leur objectif c'est marquer un but de plus que l'adversaire. Nous aujourd'hui, c'est ne pas prendre de but et essayer d'en marquer un, et si tout va bien, on a gagné. Non. Aujourd'hui, on est vraiment dans une problématique qui est profonde. Je te garantis que dans ce qu'on propose dans le jeu, c'est pas suffisant.
Et on va parler des individualités qui sont passées totalement à côté, mais on peut pas non plus s'empêcher de s'étonner encore une fois des choix de Farioli. Il y a sa compo de départ. Alors il y avait beaucoup d'absents au milieu. Il décide de mettre les trois derniers milieux disponibles ensemble. Pourquoi pas Boudaoui, Louché et Claude Maurice. Mais pourquoi mettre Louché en 6 alors qu'il est formé comme relayeur, et mettre Boudaoui comme relayeur alors qu'il a été excellent en 6 la saison dernière? On a l'impression déjà que il se complique un peu la vie quand il y a des choses très simple qui semble évidente. Pourquoi tu sors Mohamed Ali Chow en premier dans ce trio offensif transparent alors que c'était le seul qui mettait un petit peu de vie? Pourquoi tu laisses Guessant sur le banc alors que c'est le meilleur attaquant en 2024? Il y a des choix aussi qui nous interpellent alors qu'ils ont peut-être à force creuser un petit peu ce gouffre entre lui et son vestiaire, parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a des joueurs qui sont lassés par cette méthode. C'est pas une raison pour se saborder comme ils l'ont fait hier, mais on sent que le coach a plus trop la main pour aller chercher le caractère chez ses joueurs, mais il peut pas y être totalement étranger. Et c'est les choix hier encore une fois nous ont interpellés, et il peut pas être mis comme le principal responsable. Il y a d'autres individualités qui sont vraiment passées à côté, mais on peut pas non plus complètement le dédouaner.
Ah, c'est ce que je disais en l'introduction, hein, et c'est une défaite collective aussi bien des joueurs que du staff et de Farioli plus particulièrement. On avait peur en début de saison qu'il s'entête, hein. Là on constate que oui, il s'entête, même quand ça marche pas, en espérant qu'il change un petit peu. 100% Aiglon, ça continue, hein, n'hésitez pas à nous appeler, hein, 04 93 82 03 04, c'est votre émission aussi, hein, vous intervenez, vous participez à ce débrief avec nous. Les tops, les flops, c'est dans un instant sur France Bleu Azur.
Samedi 20 avril, les 10 commandements, le grand retour sur scène au Palais Nicaïa de Nice. 40 artistes, des décors grandioses, des chansons mythiques. Exceptionnel, les 10 commandements, l'envie d'aimer. Samedi 20 avril au Palais Nicaïa à Nice. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Azur.
Tous les matins, en semaine à 8h25, Adrien Mangano et les VIP de passage sur la Côte d'Azur sont sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur.
Salut, c'est Christophe Willem sur France Bleu.
Bonjour, c'est Zazie.
Adrien tend le micro France Bleu Azur à celles et ceux que vous aimez voir au cinéma, à la télé, sur les réseaux. L'actu média, musique, ciné, série, tous les matins à 8h25 et tout le temps sur francebleu.fr et l'application ici.
18h17, on fait un point sur vos conditions de circulation. Bon, ça va aller vite, hein, puisque dans les gares, il n'y a pas de difficultés particulières à vous signaler. Hein, les trains sont à l'heure, pas de train supprimé. Et puis sur la route, hein, ça roule bien à cette heure-ci. Je vérifie quand même, mais vraiment, aucune difficulté sur l'A8 comme en ville. Vous roulez tranquillement.
100% Aiglon.
100% Aiglon.
Sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief, ça continue toujours avec Maxime Baquier, Patrice Alberganti et Victor Jugner. Vous êtes au courant quand vous entend, hein, quand vous chuchotez quand même, hein.
Ah ouais?
Ah ouais. Vous entend quand même.
Mais il vient de démarrer la radio, Patrice. Il faut tout lui expliquer.
Il fait ça depuis une semaine à peine, Patrice.
Non, mais moi ça me plaît. Moi je m'éclate avec vous.
Ah, c'est bien mieux parce que nous on s'éclate avec toi. Ah. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Tiens, il y a un plaisir aussi de retrouver nos auditeurs puisqu'on a Raoul qui est avec nous. Bonsoir Raoul.
Oui, c'est Raoul à Loury dans le Cap Corse. Il y a longtemps que je vous
ai vu. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un moment.
Et quand ça va mal, on peut dire que c'est un naufrage collectif. Le spectacle était affligeant, pathétique. Et surtout, c'est la manière. C'est la manière. C'est-à-dire que si on perd, parfois qu'on se bat, qu'on a de l'envie, qu'on a de l'abnégation, ben on peut se dire tant pis, on est passé à côté. Contre Monaco, c'était pas la même chose, par exemple. Mais hier, c'était quelque chose de catastrophique. On n'a pas reconnu l'équipe, même.
C'était un non-match. Hein,
je suis pas trop d'accord avec toi.
L'équipe,
moi, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec Victor. Tu parles du match de Monaco. J'ai l'impression que c'est le seul match où on a senti cette équipe avec l'envie de se révolter contre les éléments, absolument, contre le score contraire. Mais dès que on prend un but, ça se liquéfie. Il y a personne qui tire vers le haut cette équipe-là. Et comme le dit Victor, justement hier, on a reconnu cette équipe. Alors peut-être 2024, presque caricaturale, mais on est dans cette dynamique d'une équipe qui n'a pas de solution quand elle est menée. Ouais.
Bah, le seul avantage, c'est que si on veut faire des pronostics, on sait que lorsque Nice va rencontrer une équipe supposée plus faible ou en difficulté, on peut parier que Nice ne gagnera pas, quoi. Donc, pour les paris, c'est pas mauvais parce que c'est vraiment un adage qui se confirme, hein. Nice, quand ils sont contre des gros, ils peuvent se révolter. Et quand des équipes beaucoup plus faibles, je me souviens de Clermont, tout ça, c'est pitoyable, quoi. Eh ben, on n'est pas à la hauteur.
Il faut espérer que tu n'aies pas raison, Raoul, hein, parce que si tu as raison, on va gagner contre 5 équipes. Et encore, on ne gagne pas le PSG, on ne gagne pas Monaco, on ne gagne pas Brest. Hein. Donc il nous reste 2 matchs à gagner, en gros.
Bon, oui.
ça fait faible. Mais effectivement, c'est vrai que l'équipe n'est pas là où on l'attend en termes de niveau de jeu.
Oui, alors, je ne sais pas ce qui se dit dans les coulisses, hein, mais est-ce qu'il y a des problèmes en interne qui nous échappent? Ça, on en sera peut-être plus avec Maxime s'il a des infos. Je salue aussi Madame Alberganti parce que il y a des mecs ce soir là, donc.
Elle t'écoute, Raoul.
Elle t'écoute, Raoul. Merci d'avoir été avec nous. Ben oui, elle est bien sûr. C'est lundi de Pâques.
Elle est solidaire. Hein. Dans la défaite, elle est solidaire.
Partout, il avait besoin de soutien.
Bon, c'était un plaisir, Raoul, de t'avoir depuis le Cap Corse. Et n'hésitez pas, vous tous qui nous écoutez, un supporter de l'OGC Nice, à nous appeler 04 93 82 03 04. C'est l'heure des tops et des flops. On va commencer avec les tops.
100% Aiglon, les tops.
Ton top, Max.
Allez, ouais. On va en sortir un, mais on va le sortir du terrain, parce que c'est vrai que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à sauver. Alors, on a vu une bonne entrée d'Evan Guessant, on a vu un Marcin Bulka qui a fait les 2-3 arrêts qu'il fallait, mais mon top, c'est Bulka, mais pas pour sa prestation, mais plutôt pour les mots après le match. Parce que comme à Lyon, où déjà il avait été le seul à vouloir venir dans les coulisses, dans les couloirs du stade de Lyon pour critiquer l'arbitrage qui lui avait provoqué la défaite, pour défendre son club, ça avait été le seul, Aiglon, à vouloir venir nous parler, il était venu. Et encore hier, il a pris son courage à deux mains et il est venu nous dire ses vérités, ce qu'il avait sur le cœur, et mettre les pieds dans le plat. Et parfois, c'est nécessaire, alors qu'il n'est ni capitaine, ni vice-capitaine, puisque c'est Jean-Claire Todibo. Mais c'est la preuve quand même d'un homme avec du caractère, d'un homme ambitieux et d'un homme légitime aussi pour le faire. Parce qu'effectivement, c'est un des Aiglons les plus réguliers de la saison. C'est sa troisième saison ici à Nice. Et il n'aime pas ce qu'il voit depuis des semaines. Il le dit, il l'assume. Et c'est vrai que dans un monde du foot très aseptisé, où tout le monde a plutôt l'habitude de se cacher par peur un peu des conséquences, de comment ça va être interprété, lui, il vient et il nous dit ce qu'il a sur le cœur. Et hier, il l'a dit clairement que les individualités étaient passées au travers, que chacun maintenant devait se regarder dans une glace pour savoir où il avait envie d'aller, et que lui, il n'a pas vu des Aiglons. En tout cas, il en a vu certains qui n'avaient pas envie hier. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ça, même après des défaites. Mais on ne peut que saluer le courage de Marcin Bulka, qui prend le risque d'être isolé après dans le vestiaire, parce qu'on sait que ça, il y a des égos, hein, et ça va en heurter certains. Mais il a dit, voilà, on va prendre le temps cette semaine de discuter de tout ça. Mais il y a parfois des prises de parole comme ça, quand tu crèves l'abcès, ça peut aussi remobiliser tout le monde. Donc moi, j'ai envie de dire bravo à Marcin pour avoir pris son courage à deux mains et avoir mis les pieds dans le plat hier.
Ouais, Marcin qui avait déjà parlé un petit peu de ses problèmes en interne et qui est un petit peu plus pointé du doigt l'attaque, hein, sur ses premières sorties.
On peut dire qu'il se cache pas, voilà, le garçon.
Et là, je pense, enfin, je sais pas comment tu l'as ressenti, Max, et toi, Pat, ou toi, Victoire, comment vous l'avez ressenti tous, mais j'ai l'impression qu'il pointe pas du doigt que l'attaque.
Non, c'est tout le monde, hein.
Voilà, il y a vraiment des individualités. Pour moi, à tous les niveaux, il pointe un peu du doigt sur chaque ligne.
Totalement, il pointe du doigt, en fait, tout le monde est personne. C'est-à-dire, il pointe aussi un état d'esprit. Il dit, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Et on est tous dans le même cas. C'est qu'en fait, on pourrait citer que des flops. C'est dur d'en citer, mais ce qu'on n'a pas aimé, c'est qu'il y avait, et on peut encore cibler Farioli, ses choix, ce que vous voulez, mais sur le terrain, il y a pas eu d'envie, évidemment, que tes gardiens. Lui, il faut se rappeler qu'il s'est quasiment cassé le nez contre Paris. Trois jours après, il joue à Lens, il va en truc international, il fait l'échauffement, le masque, il enlève. Je veux dire, c'est que lui, il compte pas. Et il aimerait bien que tout le monde ait son envie, sa motivation.
Et à la fin du match hier, il va la mettre, la tête, sur corner, alors qu'il a le nez fracturé, que c'est pas son job d'aller marquer. Et lui, il hésite pas à
Et quand il voit que quelqu'un s'efface, quand un Nantais centre, il se dit, non mais moi, nez cassé, j'y vais tous les jours. Je comprends qu'il ait pas aimé ce qu'il a vu, ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Ton top, Pat.
Alors moi, je vais en sortir un, parce que j'attendais des réponses d'un certain joueur, et qui est Mohamed Ali Chou, et je trouve qu'il a fait un match très intéressant. Il a montré qu'il était capable de faire des différences, balle au pied, en vitesse, en percussion, et j'ai vachement aimé ce qu'il a fait. Et quand il l'a sorti, je te garantis que j'ai pas compris.
Personne n'a compris.
Il était pas cramé. Hein. Il était pas du tout cramé. Il venait de faire deux courses à haute intensité pour faire un pressing, et il le sort. Même lui, il n'a pas compris. Mohamed Ali Chou, il n'a pas compris. Mais pour moi, sur ce match-là, j'ai eu des réponses à certaines questions par rapport à Mohamed Ali Chou, et franchement, je trouve qu'il a surnagé un petit peu en première mi-temps, dans une première mi-temps catastrophique des Aiglons.
Et tu en as parlé un peu, mais il faut quand même faire une petite pensée pour Guessant.
J'aurais pu mettre Guessant aussi.
Ça, hein. Non, vas-y.
Parce que Evan Guessant, encore une fois, quand il est rentré, il a été décisif. Il est rentré, il a été décisif. Parce que le pénalty qu'il obtient, Evan Guessant, il est allé le chercher, ce pénalty. Il est allé passer l'épaule derrière le défenseur pour arriver premier sur le ballon, alors que certains joueurs n'auraient pas fait l'effort. Ils auraient juste accompagné le joueur nantais pour aller faire jouer, mais ils n'auraient pas fait l'effort pour aller passer l'épaule. Et lui, il l'a fait, et il obtient une faute, et il obtient un penalty. Et il nous remet dans le match. Franchement, encore bravo à l'entrée d'Evan Guessant.
Est-ce que la question à se poser, c'est pas pourquoi Guessant, il rentre pas de suite? Pourquoi il est pas dans le 11 de départ à la place de Mofi qui sert à rien?
Pas compris. Maxime.
Mais non, mais ça fait partie des questions qu'on posait tout à l'heure. Pourquoi Evan Guessant ne démarre pas après cette année 2024 qu'il est en train de nous faire? C'est le seul qui parlait d'envie. Lui, à chaque fois qu'il soit titulaire ou remplaçant, et c'est peut-être ce qu'il dessert au final, parce que Farioli sait qu'il peut le mettre sur le banc. Quand il va rentrer, il fera pas la gueule. Guessant, il va y aller à 100%. Mais il y a des joueurs comme ça où c'est plus facile de les mettre sur le banc parce que tu sais que tu t'évites aussi un problème. Et tu sais que quand il va rentrer, lui, il sera à 100%. Mais je pense, aujourd'hui, vu le match d'hier et vu les mots qui ont été employés par Dante, par Bulka, et ce qu'on a tous vu, je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui ne doivent plus sortir de ce 11 et qui ont parlé, mais des fois c'est des mots de, c'est, il y a des finales à jouer, à gagner pour maintenant, c'est mode commando, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui, sur le terrain ne montrent plus cette envie. Eh ben, tu laisses la place à ceux qui sont déterminés à aller chercher l'Europe. Il y a des joueurs comme ça, comme Mohamed Ali Chou qui a montré hier que lui il avait encore envie, que comme Guessant, comme Barre, ils ne doivent plus sortir de l'équipe.
C'est des joueurs des... Mais c'est là où je comprends pas. On en parlera certainement tout à l'heure. Les choix de Farioli, il le voit comme nous, Farioli, que Mofi il en met pas une. L'autre jour il a marqué, mais bon, c'était j'ai envie de dire comme il disait Victor, c'était cadeau quoi. C'était cadeau.
Vas-y Victor. Non, j'ai rien à rajouter à part que oui, certainement qu'il y a des joueurs plus faciles à bouger. On voit un Laborde qui lui, on le sort, on le trimballe à droite à gauche. Alors il est pas exceptionnel tout le temps sur le terrain, mais il lâche rien. Je pense que c'est plus facile. C'est une question de statut, d'argent, mine de rien. On a mis beaucoup d'argent sur Mofi, tout ça. Bah ça doit compter. Et c'est vrai que Guessant a un statut un peu moindre. Peut-être qu'il est moins fort, mais en tout cas à l'envie, vu c'est ce qui manque, mais tous les jours il doit jouer. Jusqu'à ce que les autres aient son envie et qu'ils le prouvent, ben, venez le chercher Guessant, parce que je pense que foncièrement peut-être qu'il est un peu moins fort que les autres, moins techniquement, il a moins la cote que ça, mais sur le terrain, au moins, lui, il fait le minimum.
Moi, je peux t'en parler, Evan Guessant, parce que j'en ai parlé avec des gens du club, et ils m'ont dit que la meilleure progression dans l'effectif pro de cette année, c'est Evan Guessant. Et c'est ce que je pense. La meilleure progression. Oui.
Barre cette année.
Je parlais du système de l'animation offensive. Offensivement, le joueur qui a le plus progressé dans cette équipe, c'est Evan Guessant. Donc aujourd'hui, pourquoi Evan Guessant n'est pas titulaire? Parce que, encore une fois, il a raison. Et
Mofi.
Terrain Mofi, c'est un gros investissement. Donc à un moment donné, il faut qu'il joue, faut qu'il ait des stats, parce que si un jour tu veux le revendre, il va falloir qu'il soit bon. Il va falloir qu'il soit revendable.
Mais t'en as connu des joueurs peut-être aussi qui, justement, parce qu'ils étaient bons quand ils rentraient, on les mettait dans cette case joker. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu le risque pour Evan Guessant, puisqu'à chaque fois qu'il rentre, il est bon, d'être cantonné à ce rôle de joker?
Oui, ça peut être un peu le risque, mais le risque qui leur pend aussi à l'OGC Nice, c'est que Evan Guessant, il se fasse aspirer par un autre club.
Il parte.
Eh oui, parce que le mec, quand il est sur le terrain, qu'il a du temps de jeu, il est bon, et quand il joue pas, l'équipe, elle est moins performante. Donc, il va se faire aspirer par un autre club, et on aura perdu encore un pur produit du centre de formation qui peut rendre des services à long terme à cette équipe.
Alors pour revenir à l'histoire de Mofi et l'investissement qui a été fait sur lui, c'est un mauvais calcul. C'est-à-dire que tu mets beaucoup d'argent sur le mec, il marque pas, tu perds de l'argent in fine, parce que tu vas perdre des places au championnat, machin. Mais tout ça pour le faire jouer, pour rentabiliser les...
Il faut qu'il joue.
C'est de l'argent perdu pour moi.
Moi, le premier, je me suis trompé sur Terrem Mofi, parce que quand je l'ai vu arriver, j'ai vu un joueur qui avait les capacités de faire la différence, notamment dans le jeu en profondeur et par sa puissance, et qui était un joueur qui était capable de marquer des buts. Maintenant, je m'aperçois que techniquement, il est très en dessous de ce qu'on attend d'un attaquant de Ligue 1 aujourd'hui.
Même s'il met les buts. Parce que l'année dernière, on se rappelle notamment à Bâle, les buts, il aimait quand même.
Oui, mais dans le jeu.
Ah non, mais je suis d'accord.
Il est pas utile à l'organisation du jeu.
À dos au but, moi, je trouve qu'il est très, très faible.
C'est difficile.
J'ai l'impression que c'est un joueur qui a besoin d'être challengé. Aujourd'hui,
je ne se sens pas
assez challengé, je pense.
Mais peut-être aussi que c'est un joueur que dans le système de Farioli, il peut pas exister. Tout simplement.
C'est possible.
On en revient encore à cette histoire de Farioli, de choix, et voilà, ça va être difficile à régler parce que monsieur est un peu testoun, comme on dit chez nous. Les flops dans un instant sur France Bleu Azur. On fera également un point sur vos conditions de circulation. Autant vous dire que ça roule bien aujourd'hui, vous n'avez pas de difficultés.
Demain matin à 9h, France Bleu Azur, à votre service.
Bonjour.
Agnès Gall.
Ce mardi, on célèbre la langue et la culture niçoise. Parlez-vous niçarte ? Partagez avec nous vos expressions favorites et vos échanges les plus savoureux dans notre belle région. Appelez-nous 04 93 82 03 04. On parle niçarte demain dès 9h sur France Bleu Azur.
Retrouvez les bons plans et les réponses à vos questions sur l'application SI et francebleu.fr.
À Nice, Holiday on Ice, mardi 9 et mercredi 10 avril au Palais Nikaya. La nouvelle création Aurore. Des patineurs incroyables, des costumes splendides. Sur une scène glaciale immaculée. Mardi 9 et mercredi 10 avril au Palais Nikaya de Nice, Holiday on Ice. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Azur.
Bienvenue chez vous, le jeu.
Salut, salut.
Jean Reno.
Chaque jour à 11h30, France Bleu Azur vous fait gagner vos places pour un concert exceptionnel. Pour les 100 ans de Charles Aznavour, l'Orchestre Philharmonique de Nice et Jules Grison se réunissent à l'Auditorium Joseph Cosma à Nice pour réinterpréter tous les plus grands titres du chanteur. Pour gagner les toutes dernières places, vous nous appelez à 11h30 04 93 82 03 04. Bonne chance.
Passez un bon moment avec l'équipe France Bleu Azur, découvrez les Alpes-Maritimes et gagnez des cadeaux. Le mois de l'apprentissage.
J'en reviens pas que tu prépares ton diplôme tout en étant embauché dans une boîte. C'est quoi déjà l'astuce ?
L'apprentissage en CFA. Et en plus, il t'aide à trouver un employeur.
Du 15 mars au 13 avril, c'est le mois de l'apprentissage. Un mois de journées portes ouvertes dans tous les CFA de la région Sud. Venez y découvrir une diversité de métiers pour rentrer dans la vie active. Bâtiment, industrie, restauration, social, esthétique, commerce, agriculture et bien d'autres. Plus d'infos sur apprentissage-sud.fr avec le soutien de la région Sud.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici.
Et 18h32, enfin un nouveau point sur vos conditions de circulation. Aucune difficulté majeure à vous signaler, un petit peu de monde quand même, hein, sur le boulevard Carnot dans le sens montant direction le Canet. Un petit peu de monde également sur la route du bord de mer entre Antibes et Villeneuve-Loubet. Et partout ailleurs, eh bien, ça roule parfaitement bien. Aucune difficulté à vous signaler.
100% Aiglon. 100% Aiglon. Sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief, on revient sur cette nouvelle défaite des Aiglons ce week-end contre Nantes 2-1. Toute l'équipe est là, Maxime Bacchi et Patrice Alberganti et Victor Juckner. Les tops, c'est maintenant sur France Bleu Azur.
Les 100% Aiglon, les flops.
Ben les tops, on l'a déjà fait, il n'y en avait pas. Les flops, par contre, bon, on peut mettre toute l'équipe, hein, on peut en mettre 11, 12, 13, enfin voilà, on peut mettre tout le monde, t'en as choisi en particulier, Max. Hein.
Oui, c'est difficile d'en sortir un dans ce marasme, mais un peu pour les mêmes raisons que Marcin Bulka, qui était le top parce que il a eu les mots justes, selon moi. Boga, je le mets, c'est mon flop par rapport à aussi à sa prise de parole, ces mots qui ont fait flop, en fait, tout simplement. Parce que deux jours avant, c'était lui, le joueur qui est venu en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Francesco Farioli pour nous dire, j'ai envie d'être le leader offensif de cette équipe, j'ai envie d'assumer ce rôle-là, voilà, j'ai envie de faire une grosse fin de saison, et deux jours après, ça fait pchit, aucune différence, aucun tir, aucun centre. Fantomatique, Jérémy Boga. Alors ok, dans une équipe qui a dysfonctionné, mais justement, si tu assumes ce rôle de leader offensif, c'est à toi à un moment d'aller tirer cette équipe et d'aller bouger un petit peu tout ça. Mais on sent que le garçon n'a pas le caractère pour faire ça, et qu'en plus il est un petit peu dans une forme de confort, de cocon à l'OGC Nice, où effectivement Patrice le disait, il y a eu gros investissements sur lui. Quelques minutes après avoir dit qu'il voulait être le leader offensif, Farioli nous dit cette semaine que pour lui c'est le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde dans son registre.
C'est quoi son
registre? Mais on voit pas la même saison, en fait.
Son registre, c'est quoi? C'est pas faire de passe, c'est pas faire de tir. C'est de faire, oui, c'est le meilleur.
Un bon match tous les 5-6 matchs, ouais, pour à chaque fois rallumer la flamme en se disant ça y est. Là, Boga, il est lancé et on va voir ce qu'on va voir. Sauf qu'après, il enchaîne avec 3-4 prestations mièvres et c'est la carrière de Jérémy Boga qui a déjà 27 ans. Je me souviens qu'à Chelsea, quand il avait 17-18 ans, on le voyait comme un phénomène. Mais ça, il fera probablement une carrière décevante par rapport à son potentiel parce que on parlait de détermination. Il en manque. Il en manque parce que peut-être aussi à un moment, autour de lui, on va pas assez le challenger.
Si on lui dit que c'est le meilleur joueur du monde aussi, ouais, Ouais, on
il a,
pas
il a dit en son domaine, il a pas dit quel domaine. Hein.
Ouais.
Voilà. Dans le dribble.
Dans son poste, alors, ça veut dire à son poste.
Ah, mais bon, ouais, mais bon. On en rigole, mais non, bon. Mais
que Farioli nous dise, par rapport à ce que j'ai vu en Italie, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde dans le dribble, dans le 1 contre 1. Mais contre Nantes, qu'il en passe pas un. Et puis c'est pas la première fois, voilà. Donc pour moi c'est voilà, c'est le flop, même si on aurait pu mettre Lautomba, Todibo.
Ah ouais, c'est le mien Lautomba, tu vois pour le coup. Mmh. Ah c'est mon flop, hein. Lautomba, je l'ai trouvé. Alors depuis le début de la saison, je le trouve assez effacé, mais alors là, là c'était un enfer hein, ce match. C'est-à-dire que je comprends même pas en fait qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain quoi.
Il y a pas de concurrence à son poste.
Mettez-moi un U16 à la place. Ah, je pense qu'il fait mieux.
C'est le, on faut revenir, hein, c'est le problème d'Atal. Ah, hein, il est censé être numéro 2 Lautomba. En vrai.
Oui, non, mais. Et ben donc, même numéro 2, c'est encore
mais
trop,
c'est vrai qu'il a fait 6 bons mois, enfin, quelques bons mois avec Digard et que Lautomba, il est un peu mou, mais il a l'image de l'équipe. C'est dur de le mettre en flop, il est moyen. Moi, si je mets un flop, franchement, j'en sais rien, mais pour parler des statuts, je mettrais Mofi, on en a parlé beaucoup. Todibo, toujours, je trouve que quand ça va pas, et ben, c'est pas le patron. Je change par rapport au statut. Todibo, il vise l'équipe de France, le top européen. Je vais pas, on va pas taper sur les louchers, sur les mecs comme ça qui débutent, qui sont à des postes. Moi, je pense que ces mecs-là, gros statut, sur lesquels il faut tomber un peu. C'est eux qui devraient nous sortir du marasme, montrer qu'ils ont le niveau international. Et Todibo, je trouve que quand on sombre, ils sombrent avec nous.
Ouais, c'est pas totalement faux. Ton flop, toi, Pat?
Alors moi, c'est collectif. Clairement, collectif, et j'englobe l'entraîneur et les joueurs parce que. Tu peux avoir des problèmes en tant qu'entraîneur et je trouve que Farioli sur ce match-là a pas été bon dans ses choix dans son 11 titulaire. On en a parlé avant le match. Je trouve que de ne pas mettre Boudaoui en sentinelle, c'est une grosse erreur. Vraiment, sincèrement, je trouve que c'est une grosse erreur. Et de me sortir Mohamed Ali Chou alors qu'il me laisse Terem Moffi sur le terrain, soit, alors on peut parler de son pénalty qu'il a marqué, mais il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu le tirer, qui aurait pu le marquer aussi. Donc, pour moi, Farioli est un responsable de la mauvaise première mi-temps de cette équipe. Et en deux, pourquoi collectif? Parce que je trouve que même si l'entraîneur ne fait pas forcément ce qu'il faut sur ce match-là, on doit quand même avoir une responsabilité au moins technique et physique dans ce match. Tu peux ne pas être bien placé, tu peux ne pas être dans un confort de système de jeu, mais tu dois mettre quand même l'intensité nécessaire pour faire un match de Ligue 1. Et on l'a pas fait. Et quand je vois ce qu'a proposé Nantes contre nous, alors que Nantes est une bête plus que blessée, alors que Nantes revient de très très loin, ils ont changé d'entraîneur, mais ce qu'a proposé Camboré, et je l'avais dit avant le match, attention à Camboré, attention à cette équipe, ça va pas être un match facile. Qu'est-ce qu'il a fait Camboré? Il a fait du simple et de l'efficacité. Et donc voilà, c'est ce qu'on est pas capable de faire aujourd'hui.
Ça a marché. Je remarque un truc moi depuis le début de l'émission là, ça fait une quarantaine de minutes qu'on est ensemble. On a évoqué tous les joueurs, il y en a un dont on n'a même pas prononcé le nom, Romain Perrault. Mais on l'a pas vu du match, on ne prononce pas son nom. Enfin, pareil. Que fait-il dans l'équipe?
Le pauvre.
Le pauvre, oui.
Non, mais comme disait Victor, c'est pas sur lui que tu dois tomber hier.
Non, je tombe pas sur lui, je constate que, il est transparent dans le match.
Bien sûr, transparent.
Quand il a sa chance, il est transparent.
On va pas le sauver. Mais je pense pas que tu puisses le mettre hier comme flop. Alors, effectivement, invisible, aucune différence non plus, mais bon.
C'était Casper hier soir.
Il faut se mettre un petit peu à sa place. Il arrive pour être le titulaire du poste.
Oui.
Il tombe sur un Melvin Barr impressionnant pendant 6 mois. Il joue pas. On nous assure qu'il reste dans l'état d'esprit, qu'à l'entraînement, il a une super attitude. Il a un peu plus de temps de jeu récemment. Alors, malheureusement, il a provoqué la défaite à Toulouse. Hier, il fait un mauvais match, hein, très clairement. Et oui, je pense que Melvin Barr, qui était un petit peu touché après le tendon d'Achille, l'entaille qu'il avait eu à Lens, un peu préservé, Melvin Barr va retrouver son poste. Donc c'est difficile aussi pour Romain Perrault de performer comme ça quand tu lui dis, tiens, allez, hop, là tu vas avoir 60-70 minutes dans un climat collectif aussi mauvais.
Après, faut pas se leurrer, hein. Si Romain Perrault est prêté à Nice, c'est que c'est pas un arrière-gauche de top qui va nous sauver, ça va être un arrière-gauche qui va faire le boulot, qui va jouer quelques minutes. Et pareil pour Boga, si à 17 ans il a Chelsea, à 27 ans il a Nice, c'est que c'est pas le meilleur ailier du monde. Voilà.
On demande pas les meilleurs, mais au moins qu'il fasse le taf.
Alors pourquoi il est prêté Perrault s'il fait la maille et qu'il peut être très bon? Non, c'est que il a un niveau moyen et en plus, il a pas la confiance, il est tombé sur un bar en état de grâce. Et donc ouais, c'est pas facile. Je suis d'accord avec Maxime, c'est dur de tomber sur lui sur le match d'hier. ou alors lui avec les autres, quoi.
Attention, je mets lui avec les autres, hein, je tombe pas dessus, voilà, perso, parce que je n'ai rien contre ce pauvre.
On a rien contre personne, nous aussi, hein.
Voilà, ce pauvre Perrault, mais je constatais juste qu'en 40 minutes, voilà, c'est le seul joueur dont on n'avait pas prononcé le nom et qu'on n'avait pas vu hier également sur le terrain. Alexandre est avec nous de La Colle. Salut, Alexandre.
Bonsoir à tout le monde. Je vous entends depuis tout à l'heure. Mais en fait, il manque un leader dans cette équipe et les joueurs n'ont pas envie. Je pense que moi, je vous ai trouvé un leader. Pour la fin de saison, je pense qu'il faudrait mettre la borde. Il faudrait que Diop y parte parce que Diop, il a rien mené à l'équipe et il est trop cher. Et que c'est des joueurs qui n'ont pas envie. Regardez, ça me fait penser un peu quand il y avait 2002 José Cobos, les joueurs qui, comme José Cobos ou Eric Collet ou d'autres qui avaient envie. Là, ils ont plus à part Guessant, à part Perrault qui est un pitchoun du club. Il y a des joueurs qui n'ont pas envie, comme Boga, voilà. Il y aurait encore Alexis Beka. Je suis sûr qu'il aurait fait le travail. Claude Maurice aussi, il y a des joueurs qui n'ont pas envie. Il faut que Diop y parte, il faut que... je pense qu'il y a des joueurs qui sont déjà en vacances, et malheureusement, il reste 8 journées, et les vacances, c'est dans les 8 journées, et je pense qu'il y aura beaucoup de départs, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont plus envie de jouer. Le problème, il est là.
Bon, Diop, le pauvre, c'est pareil, il est blessé depuis plusieurs semaines, donc c'est normal aussi qu'on ne le voit pas beaucoup en ce moment. Oui, il y aura forcément un grand ménage cet été, il y a des joueurs qui sont prêtés, qui n'ont pas forcément convaincu, il y a un Morgan Sanson qui, son option d'achat ne sera levée que si le gym finit dans les 8 premiers, il peut commencer un petit peu à serrer les fesses, notre ami Morgan Sanson.
Sur l'envie, on te rejoint, sur l'envie, oui, on l'a tous remarqué, mais après, je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a une mini-page qui va se tourner saison après voilà, encore dur de tomber sur un Diop qui lui n'a pas joué ou sur un Perrault. On revient toujours sur ce truc, en tout cas on se rejoint tous sur l'envie, j'ai l'impression.
Mais Alexandre disait ça manque de leader. Moi je reviens à Marcin Bulka aujourd'hui, je pense que il a pris les clés aussi de ce leadership, parce qu'on sent que Dante, avec son âge, avec cette espèce d'ancienneté, son message ressemble toujours un peu à la même chose, toujours les mêmes mots, on se moque un peu de lui, cette fameuse exigence, cette autocritique, on sent que Dante, il a peut-être un petit peu du mal à emporter avec lui tout le vestiaire. Bulka, il a cette forme de fraîcheur, cette forme
surtout,
de charisme.
Je sais pas ce que t'en penses, peut-être qu'ils sont pas aussi, ben, c'est sûr, même pas au même moment de leur carrière. C'est que Dante, il veut finir sur une bonne note, diplomate, capitaine, peut-être qu'il rentrera, et c'est très bien. Je trouve que il est toujours loin d'être ridicule, voilà, mais il est toujours là. Bulka, lui, je pense qu'il a des ambitions de très grands clubs européens. Il peut pas se permettre de s'aborder une saison, deux saisons, trois saisons, sinon il va vouloir bouger. Enfin, c'est pour ça que s'ils sont pas au même moment de leur carrière non plus.
Mais l'avantage d'un gardien, c'est que même dans un mauvais club, il peut faire des super matchs, il peut se montrer. Alors c'est un petit peu moins vrai pour d'autres postes.
Mais Patrice, moi, par rapport à la prise de parole d'hier de Marcin Bulka, toi, comment tu la vois de l'extérieur, comment tu la ressens et quelles conséquences aujourd'hui dans ce vestiaire?
Bah, c'est toujours pareil. C'est comment vont le prendre le reste du groupe. Moi, si je suis dans le groupe et que Marcin Bulka il dit ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que je suis capable de dire j'ai été bon ou j'ai été mauvais, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait sur le terrain, ou j'en ai pas fait assez. Je suis capable de le faire. Donc ça peut diviser, bien évidemment. Sa prise de parole peut diviser. Comme ça peut, justement, comme il a le même âge que la plupart des joueurs qui sont dans la vestiaire, ça peut avoir un retentissement positif. Mais tu le verras dans pas très longtemps, parce que si on continue comme ça, ben ça veut dire que ce qu'il a dit, ça a pas forcément été bien pris, parce que toujours pareil, t'as des petits groupes, t'as des petits clans, t'as des mecs qui parlent ensemble et vas-y, pour qui se prend, et tatati tatata, ou t'en as qui vont dire attendez les gars, Marcin il a raison, on n'a pas fait ce qu'il fallait hier, tout simplement. Mais ça c'est un état d'esprit de gagnant, de vainqueur. C'est-à-dire que tu peux prendre une critique négative pour te faire grandir. Et t'en as qui vont prendre une critique négative, qui vont dire attends, pour qui se prend lui? Moi je suis pas dans cet état d'esprit là, mais t'as plein de joueurs qui peuvent le prendre comme ça.
Ce qu'on peut constater simplement, c'est très factuel, c'est que quand le groupe se retrouve 48 heures ensemble en Belgique avant Lens, on se parle, ça a un effet sur le terrain, derrière on voit de la détermination. Quand le groupe est dispersé, pendant 15 jours, pendant une trêve internationale, où chacun part un peu de son côté, chacun va parler à droite, à gauche, se fait peut-être un peu parasiter par la famille, par les agents. On sait comment ça marche, le monde du foot aujourd'hui. Tout le monde se retrouve ensuite pour nous pondre ce match contre Nantes. Donc, on peut aussi peut-être s'interroger sur certaines personnes qui peuvent parasiter des joueurs importants de cette équipe, puisque quand Dante lui dit « Attention, parce que vous nous mettez des joueurs de très haut niveau qui ne montrent pas l'attitude de joueurs de très haut niveau. » Donc, sans citer de nom, et on va pas en mettre là ce soir sur la table, parce que ce serait que du ressenti, mais on se rend compte quand même que ce groupe-là, il peut être efficace, sain et bien vivre ensemble quand il est soudé. Par contre, quand ça se disperse, ça manque peut-être un petit peu de culture de la gagne et de d'envie, de détermination, peut-être même de professionnalisme.
Mais c'est ça qui est frustrant, c'est qu'en fait, on est cinquième à cette journée de la fin. Enfin, on regarde comme ça, c'est pas catastrophique. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on les a vus. Alors, on a beaucoup de réussite, mais on les a vus sous Favre. C'était quand même quasiment le même groupe, faire n'importe quoi, être magnifique sous Digard. Au début, là, ça repart bien. Puis là, on fait n'importe quoi. Enfin, on n'a pas un moyen. Donc, on sait qu'ils sont capables de faire bien. On les a vus depuis un an. On a vu des périodes incroyables pendant un an, de janvier à décembre 2023. Ils étaient exceptionnels. C'est une des meilleures équipes françaises. Et après, on peut faire des périodes de 3-4 mois où on est mauvais. Donc, c'est pour ça qu'on est frustré. C'est qu'on sait que dedans, il y a des bons joueurs, mais qu'il y a un truc qui va pas. On sait pas où, mais il y a un truc qui va pas.
Il y a des bons joueurs quand ils travaillent, c'est toujours pareil.
Mais on sait pas où est le joueur.
Non, mais alors on parlait de la concurrence tout à l'heure. Peut-être que aujourd'hui, ouais, le club n'est pas assez solide pour maintenir cet esprit ambitieux toute une saison.
Et pourtant, avec des Guizolfi, tout ça, on a quand même du staff, on a quand même des mecs à poigne qui pourraient cadrer un petit peu tout ça, Pat.
Ouais, mais c'est pas des mecs qui sont dans le vestiaire régulièrement. Hein, c'est sûr. C'est comme le dit Max, ils sont pas 24 heures sur 24 au stade, 24 heures sur 24 avec le coach, avec le staff, avec le capitaine. Avec, ils sont livrés à eux-mêmes et ils ont leur analyse à eux. Et après, c'est toujours pareil. Moi, je dis que la performance, elle vient de quoi? Déjà d'une entité forte. C'est-à-dire d'un club fort. C'est-à-dire quand tu vois les clubs qui performent aujourd'hui, c'est des clubs qui ont des identités qui sont énormes, qui ont une pression énorme. Après, t'as des joueurs dans ces effectifs qui ont des exigences personnelles et individuelles qui sont très très hauts. Et je trouve qu'à Nice, de temps en temps, nos exigences sur le terrain, elles sont pas, tu vois, elles sont pas dans la haute performance. Elles sont dans, voilà, ben on rentre sur le terrain, ça se passe bien, maintenant mieux, ça se passe moins bien, c'est pas très grave. On n'est pas toujours dans cette culture de la performance de haut niveau. Et je pense que là où on doit faire vraiment un gros axe de progression au niveau du club en général, et qu'il le fait depuis des années, mais on n'y est pas encore et ça se construit pas en 5 minutes, c'est d'en arriver là, c'est d'avoir une entité OGC Nice qui montre que voilà, la performance de haut niveau, si tu veux jouer à l'OGC Nice, c'est tu dois être un joueur de haut niveau et tu dois avoir des exigences du haut niveau. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'y est pas encore et on en a déjà parlé les années précédentes. Hein. On progresse, on arrive à faire des comme le disait Victor, des saisons qui sont voilà de vitesse où on est très très performant parce qu'on est très très concentré et que les exigences sont très très hautes, et quand on est un peu moins bien, eh ben on est un club qui redevient un peu plus facile à jouer et c'est là où il faut comprendre.
Mais est-ce qu'il manque pas cette figure stable et autoritaire au club? Comme pouvait l'incarner un Jean-Michel Aulas qui en pleine crise allait toujours agiter le chiffon rouge à gauche pour qu'on regarde pas trop à droite, mais par contre dans le vestiaire je pense que c'était lui qui allait remettre les têtes à l'endroit. Est-ce qu'aujourd'hui dans cet organigramme où chacun fait bien son travail de son côté, on a suffisamment loué l'effectif monté par Guizolfi pour ne pas aujourd'hui le critiquer, même s'il y a des trous à certains postes. Fabrice Boquet fait du super boulot en interne à la direction générale, le président River sur l'image, pas de problème. Mais qui aujourd'hui incarne cette forme d'autorité pour quand le bateau est un peu ivre comme ça, remet tout le monde d'aplomb, puisqu'on voit bien que Farioli, c'est pas non plus son truc.
Ce qu'on disait depuis le début de la saison, c'est qu'il n'y avait pas une tête qui dépassait. Et là, on aimerait qu'il y ait justement au moins une tête au-dessus qui dépasse et qui, effectivement, comme tu dis, Max, qui prenne un peu les choses en main et qui tape du poing sur la table.
Comme tu dis, quand le bateau tangue, il faut qu'il y ait un capitaine. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère le navire.
Et qui...
Mais la réponse, tu l'as dans tu regardes, tu prends tous les clubs qui performent en haut niveau. Mais regarde les personnes qu'il y a ou à la tête de l'équipe ou à la tête du club, ou à la tête de qui est là et qui est le dépositaire du si tu veux de l'état d'esprit que va avoir le club en général. Donc tu verras Manchester City, Guardiola, ben
c'est mais ça combien de temps, parce que ça se fait pas non plus en une saison. Peut-être qu'on a les bons hommes en fait.
Non, mais je dis pas ça. Moi je pense qu'on a les bons hommes au bon endroit.
C'est déjà une bonne chose.
Les Farioli, tout ça, les Ghisolfi, Fabrice Boquet. Je trouve que on a vraiment ce qu'il faut pour travailler très correctement. Mais je trouve que pour progresser encore plus, il va falloir à un moment donné avoir, si on veut passer des paliers, à la tête de l'équipe, un entraîneur qui est capable de gérer toute cette forme d'ego, cette forme de latence, cette forme de professionnalisme, d'exigence du haut niveau. Il va falloir trouver un mec qui est capable de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, Francesco Farioli, qui a des grosses qualités, n'est pas forcément la personne qui est capable de taper du poing sur la table, de remobiliser tout le monde à un moment donné. Alors, ce n'est que mon avis, mais il a montré des choses très intéressantes, mais c'est encore un jeune entraîneur. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire progresser l'équipe, peut-être qu'on a besoin d'autre chose.
Et ça peut pas se faire par un changement de joueur. Si on a les bons hommes à la tête, peut-être que le ressort ne marche plus avec un Todibo, Dante, Boudaoui, qui ont tout connu.
Victor, quand tu prends l'effectif de l'OGC Nice, que tu prends les individualités, les joueurs que tu as, les noms qu'il y a, franchement, c'est un effectif qui peut jouer largement les trois premières places du championnat.
Meilleure équipe française en 2023, voilà. On le sait. On l'a vu.
Si ça s'effrite à un moment donné, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque un rouage. Il manque quelque chose où il faut progresser. Un axe de progression. Et pour moi, l'axe de progression, il est dans l'aura, dans l'entité, dans le club. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce club devienne un club top français. Et pour devenir un club top français comme l'ont été les autres, il faut du temps. Et à un moment donné, je suis sûr qu'il y aura les hommes en poste au niveau de l'équipe. Je parle pas du stade, je parle pas de l'organigramme du club, parce que l'organigramme du club, pour moi, il a été fait pour construire un club durable et qui peut s'installer en Europe. Mais aujourd'hui, je pense que Francesco Farioli a une méthode qui a ses limites.
Et je vais rebondir justement là-dessus. Est-ce que tu penses que le gym mérite d'aller en Europe à l'heure actuelle? Est-ce qu'on mérite d'y aller?
Alors franchement, aujourd'hui, je dis les choses, je parle comme si j'étais avec vous à la maison. Hein. Mais aujourd'hui, quand t'es pas capable de battre Clermont, de battre Montpellier,
Metz,
de battre Nantes...
Metz, tu les as battus, quand même.
Non, mais...
Ouais. Mais difficile.
Ouais. Quand t'es pas capable de battre les équipes qui vont te permettre d'avoir des points... C'est qu'il y a un problème. Donc pour moi, aujourd'hui, t'es pas programmé encore une fois pour aller chercher une place en Europe.
Ouais. Donc Champions League ou la plus petite?
Avec ce que tu montres là, non, je suis pas d'accord. Donc avec ce que tu montres là, t'as encore en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que t'as encore les cartes en main.
Ben oui.
Mais je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile. Il va falloir montrer autre chose pour aller chercher ça Les équipes qui sont en Europe aujourd'hui, les Clermont, les Nantes, les machins, elles ont pris des points. Nous, on n'est pas capable de le faire. Alors, certes, on est capable d'élever le niveau contre des équipes beaucoup plus fortes dans ce championnat, mais là où tu dois prendre les points, c'est là.
Tu les prends pas. La question qu'on se pose, donc là on est cinquième aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à nos efforts uniquement, enfin à nos efforts même pas. C'est surtout dû au marasme, hein, Max, hein, de la concurrence, puisque quand on perd, les autres perdent aussi. Quelque part, ça nous sauve.
Ouais, mais je trouve que cette 27e journée de Ligue 1, elle fait un peu le tri, là, parce que les quatre premiers ont gagné, les quatre suivants ont perdu. Donc voilà.
L'écart se creuse.
T'as l'impression que ça va se battre pour le top 4 devant, pour les 4 places Ligue des Champions, avec Paris, Brest, Monaco et Lille. Et puis que derrière, eh ben, t'as le second wagon. T'as Nice, où on est en tête de ce second wagon, on a cette chance-là.
Lens, Marseille
et Rennes. Mmh. Et la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, derrière, bon, ça rame aussi. Hein. Tu vois que Marseille, après avoir fait sa bonne série avec Gassé, ça pioche. Rennes a enchaîné 6 ou 7 victoires d'affilée, mais toujours qu'à 4 points de Nice, puisqu'ils ont encore perdu hier à Strasbourg. Donc, moi, j'ai l'impression, et j'entends totalement Patrice, si on est très honnête aujourd'hui, on dit non, on mérite pas de jouer à l'Europe. Mais factuellement, on est cinquième.
Il reste sept journées.
Je te l'ai dit. Et je pense que on s'est un petit peu embrouillé la tête tout seul avec ces campagnes de communication, à nous l'Europe, machin, on était deuxième, nous-mêmes, hein. Ici, on disait c'est l'année ou jamais, faut aller la chercher, la Ligue des Champions.
Bien sûr.
On s'est peut-être un peu vu trop beau. On redescend sur terre et aujourd'hui il faut se dire tout pour la C3, parce que pour moi l'Europa League c'est la compétition idéale pour cette OGC Nice qui manque encore peut-être d'une structure assez forte pour assumer aussi d'aller se qualifier dans cette grande compétition. Si Ineos n'ouvre pas le robinet, s'il n'y a pas d'investissement, si t'as un club qui est encore en train de vouloir progresser, est-ce que ce serait pas un cadeau empoisonné d'aller se brûler les ailes avec cette Ligue des Champions, alors que finalement l'Europa League c'est une super compétition à jouer, on l'a vu l'année dernière avec l'Europa Conference League. Je pense aujourd'hui que objectif, c'est 3 et on arrête de d'avoir des étoiles dans les yeux, mais ce serait déjà un bel objectif, je pense, et une saison qui serait, je pense, réussie si on arrivait à finir 5e. Ben,
clairement.
Il faut finir 5e. Oui. 5e, tu te qualifies directement dans la phase 5e, de groupe. 5e,
t'es bien 5e.
Ça serait
top. Justement, pour se projeter vers cette 5e place, prochain match, c'est contre Reims. Des retours au milieu, peut-être, Max ?
Elle est suspendue déjà, c'est déjà bien.
C'est déjà une bonne chose.
Et Thuram, qui avait ouvert son compteur but à Lens et qui, bon, hier, a pas eu l'air d'être trop affecté par ce qui se passait, puisqu'on l'a vu tout sourire en tribune, mais peu importe. On va espérer que sur le terrain, il sera concerné dimanche à Reims. Après, pour les blessés, Youssouf et Sanson, ça devrait être trop juste, malheureusement.
Okay.
Donc, mais voilà, il y a du matos quand même. Avec Rosario, Thuram, un Boudaoui qui, on l'espère, sera un peu plus en jambes qu'hier. Il y a de quoi faire, mais moi je redis ce que je disais tout à l'heure. Il y a des joueurs qui ne doivent plus sortir de cette équipe parce que eux ils sont exemplaires. Et on parlait d'Evan Guessant. Voilà.
Est-ce que j'allais dire, est-ce que selon toi, Pat, Guessant doit commencer dans le 11 de départ?
Ah, franchement, oui. Ah, mais largement. Mais avec la rentrée qu'il fait par rapport à la performance de Terry Moffi hier.
Mais c'est pas la seule en plus, hein. C'est plusieurs fois. Hein.
Oui, c'est pas la première fois, sans aucun problème. Il doit rester dans ce 11, il doit performer et il doit jouer. Il y a aucun problème. Après, je reviens juste deux secondes sur ce que on disait tout à l'heure. Oui, je dis vraiment qu'on a encore notre destin entre les mains. Et ça, c'est une chance. Mais par rapport à ce qu'on montre aujourd'hui, ne me dis pas qu'on est programmé pour jouer la C3 ou la C2 ou la C1. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il va falloir montrer autre chose dans l'état d'esprit et dans ce qu'on propose sur le terrain pour aller chercher cette place qui nous frustrera si on l'a pas par rapport au début de saison que nous avons fait.
Ça ressemble un petit peu à la fin de saison Galtier. On sentait que tout partait à volo, mais dans un élan un peu d'orgueil et de fierté, on avait réussi à accrocher cette place. Alors, on n'a pas les mêmes joueurs qu'à l'époque. Hein. On n'a pas le Andy Delors qui tout seul va aller justement chercher la victoire. Ouais. Mais ça ressemble un petit peu à ça, Victor.
Et ça ressemble surtout à ce qu'on voit depuis un temps. En fait, Europe à Europe, nous, ce qu'on veut, et ce que les supporters veulent, je pense, c'est mourir avec les armes à la main et pas faire ce genre de match. Si on perd, qu'on donne tout, qu'on prend des jaunes, des rouges parce qu'on a trop d'envie, et qu'on n'est pas européen, exactement, on sera pas européen. Mais pas en faisant ces bouillies, en proposant rien, là, on sera déçu.
En étant totalement absent, et je crois que c'est ça qui nous agace le plus, hein, comme observateur, comme supporter, de voir des aiglons qui se bougent pas et qui ont pourtant les capacités, les moyens, et physiques et tous les moyens.
Montré,
voilà,
hein.
Ils ont tout à faire. C'était un plaisir, messieurs, de débriefer ce match.
On aurait aimé finir cette émission en disant poisson d'avril, en fait. On a gagné
8-1, mais non.
Non.
On espère que la semaine prochaine, ça va mieux se passer. Match à suivre, comme d'hab, en direct, hein, sur France Bleu Azur, et puis le débrief lundi prochain, toujours à 18h. Merci, Max, d'avoir été avec nous. Merci,
avec
Patrice. Merci à
vous, les gars. Merci à tous.
100% avec nous, c'est tous les soirs à 18h sur France Bleu Azur.